meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, comment ça va?
Bonsoir, bienvenue dans la causerie sur Radio Canu 102.2 sur les ondes et puis radiocanu.org pour ceux qui veulent écouter sur internet. Et puis la causerie, eh ben vous pouvez trouver des blogs à blogs.radiocanu.org/la causerie ou éventuellement nous écrire à lacauseriecanu@gmail.com. Et ce soir, autour de la table et à la technique, nous avons Jean-Yves.
Bonsoir.
Fab.
Salut.
Clara.
Bonsoir.
Et Jonathan.
Le TGV.
Voilà.
Aka le TGV.
Alors, histoire de ralentir en douceur, Fab, tu voulais nous parler de... Ah, attendez, pardon, j'oubliais de faire des bisous aux causeuses...
qui ne sont pas là.
Bah, oui.
C'est vrai.
Et moi, je veux remercier... Je vais remercier ceux et celles qui nous écoutent en direct et qui ne sont pas en train de regarder un match de foot qui, pareil, qui passe à la télé. Sur une chaîne commerciale qui fait plein de thunes.
C'est
dessus
vrai.
Avec. Mais dans ces cas-là, on s'en fout d'être capitaliste.
Ouais, c'est une petite ambiance cosy, là,
voilà.
Avec les quelques auditeurs et auditrices.
Voilà.
C'est une petite émission entre nous, quoi.
En fait, il n'y a personne qui nous écoute. Hein. Alors, on va faire un jeu. On va faire un jeu. Si tu nous écoutes, prouve-le. Appelle au... Clara.
04 78 39 18 15.
Voilà. C'est un jeu où tu n'as rien à gagner.
Absolument rien.
Juste prouver,
on te prévient.
Juste prouver que tu écoutes l'émission.
Non, mais ce soir, c'est comme le foot, c'est ici en direct, demain en rediffusion.
Voilà, exactement.
Et donc, Fab, tu voulais nous parler de Civitas.
Oui, des gens sympas. Voilà, c'est, c'était ironique, hein, je précise. Voilà, c'est vrai, les gens vont prendre vraiment ça au sérieux. Alors, Civitas, vous vous souvenez, c'était une association avant. Un truc avec des gens très ouverts qui venaient devant les maternités pour dire qu'il fallait faire des enfants et devant les centres IVG pour dire que c'était le mal.
Mmh.
Voilà. Ce sont les mêmes qui ont beaucoup participé à la manif pour tous. Pour ceux qui se souviennent des images, c'est ceux qui ont un petit peu aidé à agresser à l'époque Caroline Fourest et les Femen dans la manif pour tous. Voilà, c'était eux et puis l'ordre français. Parce que, voilà. Alors Civitas, voilà, des gens très ouverts, on sent quand même vachement sympatoche, voilà. Alors on va vous rappeler que l'association avait été créée quand même pour rappeler que la France était la petite fille de l'Église, hein, voilà.
Ils auraient pu allègrement adopter la fille aînée de l'Église.
Ouais, mais
c'était trop
bizarre. Non, c'est parce qu'en fait ils jouaient sur le fait de pouvoir mettre comme ça l'idée que c'était anti-avortement. Vous voyez, petite fille qui naît de l'Église.
Ah, oh,
wow, classe. Mais ouais, non, mais ils se réclament effectivement de la fille aînée de l'Église. Hein. Mais c'était un de leurs slogans, était « Nous sommes la petite fille protégée par l'Église et tout ». Voilà. Donc, bah, comment dire, on s'était un peu tous réjouis quand l'association a été dissoute. Voilà, par eux-mêmes. Hein. On va préciser, c'est pas le gouvernement qui que ce soit, c'est eux qui avaient dissous l'association.
C'était une autodissolution.
Ouais, on s'était dit, tiens, c'est cool, ils se sont décidés d'être moins cons et d'arrêter d'être fachos. Mais non. Donc, bah non, ça aurait pu marcher, ben non. En fait, ils ont dissous une association pour créer un parti politique, qu'ils ont appelé pareil, parce que faut pas déconner, quand on a un nom qui claque, on le garde. Donc c'est Civitas, the party politique maintenant. Alors eux, c'est les mêmes qu'avant, avec les mêmes slogans. Donc eux, ils trouvent par exemple que la démocratie, c'est dangereux. Et que la démocratie, c'est le mal. Voilà.
Donc, et ils proposent quoi
Alors, ils proposent. Je me suis fait très mal. Hein, je suis allé sur leur site et tout.
Ouais, des fois, ça fait mal.
Je me suis dit, après, j'ai effacé de mon moteur de recherche. Je dis plus jamais tu me mets ce nom-là, tout ça. Enfin, on est très potes avec mon moteur de recherche. Et du coup, alors, ils proposent déjà qu'on se remette sous l'égide du seul et vrai Dieu unique, hein, c'est-à-dire Jésus, himself. Ouais. Voilà, celui qui a des trous dans les mains. Voilà, c'est donc celui-là qu'on doit apprécier de selon Civitas. Accessoirement, ils disent qu'il faut qu'on se remette sous les ordres du seul représentant du Dieu unique, aka François, le pape François, qui deviendrait notre légataire, c'est-à-dire celui qui nous dira ce qu'il faut qu'on fasse de bien. Oui, ça fout la trouille.
Donc en fait, ils veulent une théocratie, en fait.
Non, c'est pas ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils veulent une démocratie améliorée. Moi, j'appelle ça une théocratie. Ben bon.
C'est-à-dire quand tu mets Dieu comme.
Non, mais ils peuvent pas l'écrire parce que sinon ils pourraient pas être parti politique dans la République française.
Oui.
Donc ils jouent sur les mots. Hein, vous voyez. Ouais. Ben, ils disent que le pape c'est une valeur morale qu'il faut suivre. Enfin bref, mais en gros, on sent bien quand même qu'ils ont bien envie qu'on se mette sous l'égide de ce gars-là. D'ailleurs, qui, à mon avis, n'avait pas bien besoin de ça, il n'avait pas demandé grand-chose, pour le coup, sur le pape François, parce qu'il a un peu réagi en disant qu'il ne se sentait pas forcément vraiment concerné par Civitas. Ça veut dire que ça l'emmerdait un petit peu. Hein. Bon, déjà que son prédécesseur avait trempé avec les jeunesses hitlériennes et lui avec les dictateurs d'Amérique du Sud, ça commençait à faire beaucoup. Donc non, il a un petit peu dit non, arrêtez les conneries. Le pas trop fort. Ah, bien sûr, il prône le patriotisme, il prône la chrétienté, il prône surtout quelque chose qui, moi, m'a beaucoup fait sourire, parce que je me suis dit, tiens, je m'attendais un jour à ce qu'on ait un retour de bâton, le voilà. C'est-à-dire qu'ils disent qu'en fait, finalement, ils sont d'accord avec une partie de l'extrême gauche. Et oui, et ils le disent comme ça, ils l'écrivent comme ça, alors pas ouvertement, mais ils expliquent qu'en gros, que par exemple, les thèses défendues par Madame Boutelja dans son livre, je sais plus le titre d'ailleurs, La France, les Juifs et nous, je crois que ma mémoire est bonne. Les Blancs, les Juifs et nous, je crois que c'est plus ça. Et en fait, ils disent que c'est vachement cool et qu'elle a tout compris parce que c'est ce qu'eux, ils disent depuis des années. C'est-à-dire que chacun dans sa communauté et les beaux seront bien gardés. Donc voilà. Et donc, c'est assez étonnant parce que, du coup, Civitas, c'est une nouvelle formation d'extrême droite, hein, clairement fasciste et fascistoïde, clairement pour une théocratie, clairement violente, très clairement homophobe, raciste, sexiste, tout ce que vous voulez, mais qui est devenue un petit peu plus douée qu'avant, c'est-à-dire qu'elle surfe sur ce qui marche bien en ce moment, c'est-à-dire le différentialisme et le communautarisme. Voilà. Donc ce balèze, c'est un retournement très, très doué de leur part. On va rappeler que ils sont souvent sur Radio Courtoisie, une radio que je vous invite à ne pas écouter, qui est une radio vraiment fasciste d'extrême droite. Donc voilà, et que sur Radio Courtoisie, plusieurs ont déjà fait des sorties, comme ça en expliquant, en encensant le courant, notamment porté par le Parti des Indigènes de la République. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de connivence, malgré eux, on va dire, qui s'est créée, mais qui n'est pas illogique, parce que quand on regarde ce que prône Civitas, c'est clairement le refus du métissage. Ses parents, ça devrait vous rappeler quelque chose. C'est le refus clair, net et précis du métissage idéologique. Alors là-dedans, ils mettent les idées. C'est-à-dire que quelqu'un de droite ne se marie pas avec quelqu'un de gauche, mais c'est aussi quelqu'un qui est chrétien ne se marie pas avec un ou une musulman ou musulmane. Vous voyez, si on se mélange pas, vous voyez.
Ouais. Et les juifs n'en parlons pas.
Non, alors là, ils en parlent pas, sauf pour dire du mal. Parce que clairement, Civitas, ils sont sur la ligne dure du catholicisme, c'est-à-dire que ce sont les juifs qui ont tué Jésus.
Ouais.
Eh ben oui.
Et est-ce que Civitas est proche, en fait, de Saint-Nicolas du Chardonnay à Paris
Officiellement, non.
D'accord.
Mais par contre, ils vont tous prier là-bas. ils sont pas proches en fait, c'est leur église quoi.
D'accord. Donc
clairement c'est un mouvement qui s'appuie sur les mouvements réactionnaires et intégristes catholiques. Faut savoir que Civitas c'est un des rares mouvements qui n'avait jamais condamné les attentats qu'il y avait eu suite à la sortie de la dernière tentation du Christ, où il y avait eu un mort quand même, un cinéma qui avait brûlé et qui trouvait que c'était légitime de pouvoir défendre cette idée. des gens très joyeux. Voilà. Mais donc, du coup, voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Bah, parce qu'en fait, c'est un peu passé inaperçu. Puis surtout, à gauche, on les attaque sur quelque chose qui est totalement crétin. C'est qu'au lieu de les attaquer sur leurs idées, sur le fait que ce sont des gens dangereux, en fait, on les attaque sur le fait qu'ils auraient monté un parti politique pour récupérer de l'argent. Bah oui, ça, bêta, on avait compris, quoi. Je veux dire, à un moment donné, ils se sont pas amusés à dissoudre leur association pour juste aller cueillir des pâquerettes. Pourquoi ils ont dissous l'association et monté un parti politique? Bah, tout simplement parce qu'ils ont fait comme d'autres formations, y compris à l'extrême gauche, ils ont pris ce qui était de plus opaque. Bah oui, parce qu'une association, comme Radio Canut par exemple, loi 1901, elle doit déposer ses comptes, faire attention, c'est plus compliqué. Mais les partis politiques, en fait, c'est beaucoup plus simple de gruger. Mmh. Bah oui, regardez, par exemple, prenons un parti au hasard, le Parti Socialiste. Mmh. Vous savez combien il y a de micro-partis reliés au Parti Socialiste? Plus de 150. Donc en fait, vous avez le Parti Socialiste qui est le gros parti, et après vous avez les micro-partis qui sont sur une personne, comme le machin là, En Marche de Emmanuel Macron. Mmh. C'est un micro-parti qui n'est pas en dehors du Parti Socialiste totalement, mais voilà. Et bien, tout ça, ça vous permet en fait de faire fructifier de l'argent et de récupérer des pépettes un peu partout sans trop que ce soit contrôlable par rapport à une association qui, elle, se doit de déposer ses comptes et ne peut pas avoir de multiples partis et associations qui lui sont reliés. Voilà.
D'accord.
Donc c'est juste ça en fait. C'est juste qu'ils trouvaient plus compliqué d'être une asso que d'être un parti politique. Et puis ils ont une deuxième chose, c'est que Civitas, ils sont pas bêtes. Ils ont vu que les règles avaient changé au niveau du CSA pour le temps de présence sur les antennes, vous savez. Donc c'est maintenant ça va être calculé en fonction du pourcentage que vous faites dans les sondages, tout ça.
D'accord.
Et en fait, oui, ça a été déjà changé par le Parti Socialiste pour être sûr d'être réélu en 2017. Et en fait, ça va se retourner clairement, comme souvent, hein, contre les forces progressistes pour une raison simple, c'est que Civitas, en fait, a remarqué qu'un de ses potentiels candidats, donc ils n'ont pas donné le nom, mais on pense que c'est quelqu'un qui est aujourd'hui à l'heure actuelle à l'UMP, enfin aux Républicains comme ça s'appelle maintenant, mais qui viendrait chez Civitas, était crédité de 33% dans les sondages comme personne potentiellement éligible pour la mairie de Paris. Voilà.
D'accord.
Et en fait, comme Civitas ne vise pour l'instant que les mairies et les cantons, en fait, ils ont calculé qu'ils risquaient d'avoir un temps d'antenne supérieur à n'importe quelle force de gauche hormis le Parti Socialiste. Voilà. Vous voyez, c'est tout bête, hein. Mmh. Voilà pourquoi ils ont monté un parti politique pour pouvoir être passé à la télé. Il y en a, ils font de la télé-réalité, pourquoi ils ont monté un parti politique. Donc, nous avons un nouveau parti facho en France, un nouveau à combattre,
ben ouais.
Rien de neuf sous le soleil.
C'est un peu ça, en fait.
S'ils sont deux partis fachos, est-ce ouais. qu'ils finissent par se...
Je sais pas s'ils s'aiment à la fin.
Ou alors non, je crois se que... battre. On peut organiser des combats de fachos.
Combat de c'est mon Dieu, alors, quel meilleur.
J'ai une vieille théorie, je suis pas sûr qu'elle tienne tout le temps, mais je pense que les extrêmes droites, à un moment donné, s'entendent toujours.
Ouais, ouais, c'est clair.
C'est...
Malheureusement, oui, c'est vrai.
Je pense que c'est un truc qu'il faut pas se risquer.
De gré ou de force, en fait. Parce qu'il oui, suffit oui. qu'un des mouvements prenne du poids, et c'est un petit peu ce qu'on a vu, que ce soit dans les régimes fascistes ou même le régime nazi en Allemagne. C'est un mouvement qui finit par prendre force et les autres suivent parce qu'ils ont pas envie de disparaître, quoi. Donc voilà. Mais ce qui est inquiétant avec Civitas, c'est qu'ils sont très doués, hein. Ils sont très présents sur la toile, sur Internet, ils sont très présents sur Twitter, ils utilisent les médias, ils utilisent la radio, ils utilisent la télévision aussi, parce qu'ils ont créé une web TV entièrement dédiée à eux. Et surtout, je vous rappelle quand même que c'est quasiment entièrement eux qui arrivaient à monter avec la Manif pour tous les fameux rassemblements de tarés là, qui voulaient casser de l'homo. Et c'est eux qui étaient derrière tout ça. C'est-à-dire qu'ils ont une force, une capacité d'action qui n'est pas à négliger, quoi. C'est pour ça que j'en parle, parce que je trouve que dans les médias, juste dire « Oh là là, ils sont méchants, ils veulent juste récupérer de l'argent », c'est un peu court, quoi. Je crois qu'en fait, non, ils sont en pleine progression et qu'il faut avoir clairement les combats de pied à pied, parce qu'on n'aura pas le choix, malheureusement. Et ce qui est bien, c'est que ça se prêtera à ce qui se passe en ce moment, dans les rues, les prides, tout ça et tout. C'est là qu'on se dit qu'il faut repolitiser tout ça.
C'est un peu voilà. ça, je crois. Hein. On passe à la ZIC ?
Ouais, ouais, allez, on y va. Pas de soucis, on a rebouché la centrale de Fukushima. Oh, les petites tuites et du pipi, c'est si petit que ça se mesure pas. Pour échapper à l'Holocauste, pas de javel dans vos toilettes, hein. Non, c'est en chiant dans le compost que vous sauverez la planète. Faut arrêter d'être crédule, bordel, vous êtes plus des enfants. vraiment pas de quoi s'en faire. Ils gèrent pour nous, c'est impeccable, on n'a plus qu'à les laisser faire. Votre public est bien barré avec ce putain d'arriviste, hein. Moi ces mecs là ils me font flipper, j'ai plus confiance en mon dentiste. Faut arrêter d'être crédule, bordel, vous êtes plus des enfants. Des enfants.
Yeah. Et de retour dans la causerie le dimanche de 22 à 23 heures et sur Radio Canu ou sur radiocanu.org. Et vous avez écouté là tout de suite maintenant Maccabée et le Zombie Orchestra avec Crédule. Alors on fait un coucou à Nadège qui a choisi cette musique, qui, même quand elle n'est pas là, elle arrive à caser de la musique dans la causerie, trop forte. Et pour le côté un peu humoristique et décalé, je vais en profiter pour vous inviter à aller réécouter les émissions de Mountain Was a Thug, qui était une émission qui était sur Radio Canu tous les lundis de 13h à 14h et qui faisait un petit peu comme ça du défrichage humoristique autour de sujets très très complexes parfois, mais vraiment de la vulgarisation haut de gamme. Voilà, et avec des musiques un peu décalées par rapport à de ce dont il parlait. Donc je vous invite vraiment à aller sur les blogs de Radio Canu réécouter Mountain Was a Thug. Voilà, et un coucou à son animateur qui nous quitte pour aller à Paname, ce qui est quand même terrible. Voilà, salut. Et Jean-Yves.
Oui, bonsoir.
Si tu nous parlais un peu de la Russie.
Ouais, c'est ça. En fait, je vais vous parler, je vais essayer de faire ça rapide, mais vous me connaissez, ça va être difficile.
Allez, dans 30 minutes.
Alors, en fait, je vais vous parler des journées internationales de solidarité avec les prisonniers anarchistes et antifascistes russes. Alors, ces journées internationales, elles ont lieu du 1er juillet, donc, jusqu'au 10 juillet. Vous pouvez trouver des infos dans le dernier Monde Libertaire, qui est dans les kiosques, c'est celui du 15 juin au 15 août, donc c'est le numéro d'été. Et dedans, effectivement, il y a trois pages consacrées à ces journées internationales de solidarité. Alors déjà, il faut savoir qu'elles sont organisées au départ par l'anarchiste Black Cross, Moscou normalement, je crois bien. Donc l'anarchiste Black Cross, c'est un collectif de défense, on va dire, des prisonniers politiques anarchistes, antifascistes, anticapitalistes, et qui, au contraire de Amnesty International défend là où il y a délit d'opinion. L'anarchiste Black Cross va jusqu'à défendre les activistes, on va dire.
Elle va au-delà du délit d'opinion.
Ouais, c'est ça. Donc là, je vais vous lire quasiment l'article que vous retrouverez dans le Monde Libertaire. Donc, c'est lorsque les manifestations civiles de masse en Russie ont été étouffées en 2011-2012, le régime policier poutiniste a commencé une répression politique ouverte contre les militants et militantes des mouvements sociaux et politiques, y compris les anarchistes et antifascistes. Plusieurs militants et militantes ont été condamnés à des peines de prison au cours de ces 5 dernières années en Russie. Donc là, je vais vous citer les cas qu'on va retrouver. Donc il y a Dmitri Bushenkov, j'espère que je n'écorche pas trop le nom, qui lui est un anarchiste antifasciste bien connu. Il est docteur en sciences politiques, il a été arrêté à Moscou en décembre 2015 et il est soupçonné d'avoir participé aux émeutes du 6 mai 2012. Et ce jour-là, en fait, le 6 mai 2012, il y avait plus de 400 personnes arrêtées à Moscou à la suite d'une manifestation de masse contre les politiques de Poutine. Par contre, Dmitri, lui, il était à 400 km de Moscou ce jour-là. Mais bon, selon le pouvoir...
C'est le don d'ubiquité des anars, ça.
C'est partout en même temps. Et selon le pouvoir poutinien, il y était. Donc parti... Alors, on continue sur son tracé quand même. Enfin, lui, il est vraiment... Il participe depuis longtemps dans les mouvements anars, antifascistes. Il a eu pas mal de responsabilités aussi dans une école... Oui, il a travaillé comme vice-président du département d'histoire et de médecine des sciences humaines de l'Université nationale russe de recherche médicale. Et en fait, il a été dégagé au bout de 5 ans parce que, il était un peu trop activiste, même en étant à son poste. Donc après, il a participé à d'autres mouvements, des trucs autonomes, etc. Et en fait, il a activement participé et organisé des actions et la vie des mouvements antifascistes et anarchistes à Moscou. Il a organisé pas mal d'actions de rue, des protestations, de différents événements culturels antifascistes. Il a aussi pris part à la mise en place d'un centre antifasciste appelé Projet V, où les antifascistes et anarchistes organisent des concerts, des réunions et préparent leurs actions. La police et le FSB ont plus de 3 fois menacé d'attaquer Dmitri physiquement pour ses activités politiques. En 2015, probablement, enfin, des inconnus, sûrement des flics, ont sévèrement battu Dmitri, ce qui a engendré une commotion cérébrale. Il a été retrouvé couvert de sang. Il pouvait même plus se rappeler de comment a eu lieu l'action, enfin l'agression. Donc voilà, et il avait prévu en 2016 d'organiser un forum intitulé Autogestion et communisme libertaire pour les antifascistes et anarchistes russes. Donc voilà, mais la police du régime poutiniste l'ont arrêté avant que ça ait pu avoir lieu. Je vais continuer avec Alexei Gaskarov. Alors vous allez peut-être vous dire c'est long, etc. Mais enfin, il y a l'idée aussi, c'est que justement, en fait, ces personnes-là, si on tend pas un micro pour parler de leur histoire, en fait, ils sont tout seuls, quoi.
Enfin, on va rappeler que pour les dates, hein, c'est récent, c'est pas des prisonniers politiques d'il y a 20 ans. Hein.
Non, oui, effectivement, oui.
Et juste pour les auditrices et auditeurs, le FSB, c'est le nouveau nom du KGB.
C'est ça.
C'était juste pour cadrer.
Oui, très bien. Ensuite, on continue donc avec Alexei Gaskarov, qui lui est pareil, un antifasciste et un anard bien connu, organisateur et participant de nombreuses conférences anarchistes de gauche. Il a arrêté le 3 août 2010, suite à l'affaire de Kmiki. C'est après qu'un bâtiment administratif de cette ville a été attaqué le 28 juillet 2010. Ok, pour tout le monde dans les dates. Et c'était une action de protestation écologiste qui a eu lieu aussi à Kmiki contre la déforestation de larges zones d'une forêt abritant de nombreuses espèces en danger dans le but de construire une route à péage. Là aussi, en fait, c'est très...
Et d'ailleurs, une route à péage, qui, si ma mémoire est bonne, c'est Vinci.
Oui, je crois bien que c'était ça.
C'était juste pour faire un parallèle avec Notre-Dame-de-Londres.
Voilà. C'est ça. Et le 15 octobre 2010, la décision du tribunal fut contestée et le 24 juin 2011, la cour municipale a prononcé son acquittement. Mais, ce serait bien trop beau.
Quand si t'es acquitté en Russie, tu l'es pas vraiment, je crois.
Bah, le 6 mai 2012, en fait, il fut violemment frappé par la police sur la place Bolotnaya lors d'une manifestation de l'opposition politique. Le pouvoir poutinien n'aime pas l'opposition politique. Et suite à cette agression, Alexei, lui, il a porté une pétition sur les abus de pouvoir et dénonçant la police anti-émeute, les violences et les armes utilisées. Et ben le 23 avril 2013, il est appréhendé, le jour suivant accusé de violence contre un policier, ainsi que de diriger un groupe de personnes ayant activement participé à des émeutes de masse, justement sur cette place Bolotnaya. Plus tard, les chefs d'accusation portaient également sur la prétendue attaque de 2 policiers que Gaskarov aurait agressés. Le 18 août 2014, le tribunal a condamné Gaskarov à purger une peine de 3 ans et demi dans une colonie pénitentiaire du régime général. Et évidemment, de nombreux militants disent clairement que c'est une vengeance en fait, du gouvernement pour son activisme en fait, et que ça vient de la police politique qui est appelée le centre de lutte contre l'extrémisme. L'extrémisme est tellement large. Donc voilà pour Alexei Gaskarov.
Pour faire un petit lien, c'est le même centre politique qui est chargé de vérifier qu'il n'y ait pas de propagande homosexuelle en Russie. Voilà. Et auquel siège aussi un pope de l'église orthodoxe qui doit vérifier qu'il n'y ait pas d'atteinte à la religion orthodoxe russe. Voilà. Donc on sent que c'est quand même un truc très ouvert.
C'est un truc très sympa. On continue avec Alexei Sutuga, pareil, lui aussi anard et antifa bien connu, d'action autonome. Lui, il est accusé en fait de hooliganisme en fait parce qu'il aurait frappé des nationalistes dans une bagarre. Et en fait, lui, il est appréhendé aussi par cette police politique, dont je vous rappelle le nom, Centre de lutte contre l'extrémisme, après un concert antifasciste. Et au cours de son interrogatoire, on lui a posé des questions sur ses déplacements à Maïdan. Si vous vous souvenez, c'est en Ukraine où il y a eu des mouvements de toutes sortes, on peut dire.
Ouais, ouais.
Et en fait, et c'est là qu'il aurait participé à une rixe, en fait, et qu'il aurait agressé plusieurs personnes avec une chaise et un marteau. Lui dit totalement le contraire, enfin, il dit qu'il a même essayé d'empêcher une bagarre, en fait, avec des néo-nazis. Et en fait, ben, il a été condamné à 3 ans de prison et 1 mois de colonie. 3 ans et 1 mois de colonie. Et le 17 décembre, donc 2015, sa peine a été confirmé. Voilà. Quoi dire de plus ?
Ce qui est drôle, ils arrivent à le condamner sur un acte qui a été commis en Ukraine, en théorie.
Ouais, mais j'ai envie de te dire, l'État, quel qu'il soit, s'il a envie de te condamner...
Non, mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il se cache même pas de faire un montage bidon, quoi. En dehors des frontières russes...
Si tu prends le point de vue russe, je crois que la Crimée, aujourd'hui, elle est russe, quoi.
Ouais, c'est vrai, ouais, dans leur point de vue, tout est
donc,
russe.
Donc, du point de vue russe...
Du pouvoir de Poutine, en tout cas, tout est russe.
Du pouvoir russe. Voilà, ça c'était donc, je vous disais, Alexei Sutuga. Il y a encore juste deux personnes, mais je trouve que voilà, il faut parler de ces personnes-là qui sont enfermées, qui n'ont pas de haut-parleur. C'est Ilya Romanov qui, lui, alors le 6 août 2015, un tribunal du district militaire de Moscou l'a condamné, ce vil anarchiste, à 10 ans de prison de haute sécurité. Le tribunal a ignoré tous les arguments avancés par la défense. Et par la suite, la condamnation a été changée en 9 ans de prison de haute sécurité. Super, il a gagné un an. Lui, il fait partie des prisonniers qui sont un peu encore plus défavorisés parce qu'ils n'ont pas la thune derrière. C'est rappelé dans l'article que Romanov, en fait, c'est la famille se compose de ses parents retraités et d'une fille adolescente. Et c'est le plus pauvre des détenus, en fait.
Donc il ne peut même pas avoir des colis pour...
C'est ce qui est dit, c'est que sa famille, ouais, en fait, arrive à peine à lui apporter des colis. Et Romanov doit aussi payer un avocat travaillant sur 2 autres plaintes. Donc je vous donnerai les coordonnées après, mais enfin l'idée c'est vraiment ça, c'est de parler de leur situation, mais si vous le pouvez, vous de l'autre côté du poste, c'est aussi parler à votre tour de ces cas-là, mais aussi d'apporter un soutien financier, parce qu'on soit en France ou qu'on soit en Russie, en fait le nerf de la guerre c'est la thune, et donc voilà, il faut aider au mieux. Et un dernier cas, c'est Alexander Kolchenko,
qui est le plus emblématique.
Qui est peut-être le plus emblématique, effectivement, qui est un peu plus connu, peut-être déjà par certains milieux, anar et antifa. Lui, en fait, il fait partie avec un autre, c'était le 25 août 2015. Donc, il y avait Alexander, justement, Kolchenko, et une autre personne, qui est un réalisateur, ukrainien, Oleg Sentsov, les autorités les ont appelés terroristes. Donc le réalisateur aurait été guidé par le secteur droit, c'est-à-dire un groupe, je crois, d'extrême droite.
Ouais.
Et il aurait aussi fondé un groupe terroriste, évidemment, qui cherchera à ramener la Crimée en Ukraine. Et Kolchenko ferait prétendument partie du groupe, évidemment, bien sûr. Et d'après l'accusation, les terroristes auraient mis le feu aux portes des bureaux de la communauté russe de Crimée. Il y a une fenêtre dans le bureau local de Russie Unie, le parti au pouvoir en Russie. Et donc, au cours du procès, Gennada Afanizyniev, l'un des témoins clés dont les paroles ont servi à construire l'accusation, a dit que son témoignage a été donné sous la torture et qu'une bonne partie a tout simplement été inventée par la police. Donc cette personne-là, elle a été condamnée à 7 ans de prison, elle aussi, pour des histoires de terrorisme en Crimée. Et Oleg Sentsov a été condamné à 20 ans et Kolchenko à 10 ans de tôle pour avoir brûlé une porte et une fenêtre.
À être accusé d'eux, parce que c'est même pas eux qui l'ont fait, a priori.
Oui, effectivement.
C'est même juste une accusation.
C'est ça. Donc, comme c'est dit à la fin de l'article, c'est l'argent est nécessaire en fait pour soutenir les camarades dans les camps de travail et de détention, parce que quand on parle de colonies, c'est des camps de travail en fait.
C'est les goulags réformés.
C'est ça.
C'est joli comme nom, goulag réformé.
Ouais, c'est ça. Donc, l'anarchiste Black Cross Moscou appelle tout le monde à faire preuve de solidarité, d'aide et si possible de soutien financier. Pour tout renseignement sur les modalités de transfert d'argent ou pour toute autre demande, écrire à abc-msk@riseup.net. Et il y a encore une autre adresse, mais ce que je vous propose, c'est plutôt que de vous saouler avec des adresses mail, je vous mets tout sur le blog de la causerie, vous y retrouverez ces adresses là et après je vous dirais, faites connaître autour de vous ces choses là il y a peut-être possibilité de contacter les gens pour faire des soirées, si vous pouvez, autour de vous, dans un bar, ne serait-ce qu'un bar. Vous chopez 2-3 affiches et vous faites une caisse de solidarité. Puis même si c'est que 50 balles ou 100 balles, c'est déjà 50 balles ou 100 balles que vous pourrez refiler à ces gens-là qui ont vraiment, qui sont hyper isolés, quoi. Donc voilà, c'était le cas des anarchistes et des antifascistes qui sont en prison en Russie. Et je vous propose qu'on s'écoute un titre.
Pourquoi pas?
Ah, les musiques.
À moins que vous vouliez réagir. Hein.
Bah, je voulais, mais bon.
Ah, pardon, non, non, mais non, non, mais parce que j'avais l'impression d'avoir été très long.
Et tout. Non, moi, je voulais dire que c'était. Ce qui est intéressant dans le virage un peu très autoritaire du pouvoir russe, on ne peut pas dire le contraire, c'est qu'en fait, là aussi, on a un bel exemple de propagande. Parce qu'en fait, Poutine a une cote de popularité énorme en Russie, il le sait, hein, c'est pour ça qu'il peut se permettre de tout faire. Et qu'en fait, ces cas-là lui servent de propagande pure pour dire, voilà, ce sont les ennemis de la nation, c'est les ennemis intérieurs. Donc c'est tout ce que les fascistes et les nationalistes nous font à chaque fois, quoi, le coup de l'ennemi intérieur, tout ça. Et c'est intéressant quand même de regarder les choses en face et de se dire qu'à un moment donné, on a aussi un petit peu cet effet-là qui est en train d'arriver dans plusieurs pays d'Europe aussi, oui. Avec cette idée de l'ennemi intérieur, du preneur d'otages. Vous savez, c'est des mots qu'on emploie très, très facilement. Et cette rhétorique, elle n'est jamais neutre. Parce qu'en Russie, ça a commencé par l'idée de dire que les manifestations prenaient en otage les moscovites. Vous voyez, et aujourd'hui, on prend des gens et on les met en tôle pour qu'ils servent d'exemple. Voilà. Et c'est ce passage-là, en fait, il n'est pas si difficile et il se fait plutôt en douceur. Les gens ont toujours l'impression en fait que le durcissement d'un régime, ça vient comme ça d'un seul coup et que c'est prévisible. En fait, non, c'est sur la longueur. Et l'exemple russe est très parlant à ce niveau-là, parce que justement, on voit bien que ben plus le temps avance et plus la Russie redevient une quasiment une théocratie avec un nouveau tsar qui est Vladimir Poutine, quoi. Et c'est pas anodin, et je trouve que voilà, c'est pour ça que c'est aussi emblématique et qu'il faut pas passer à côté de ce que ça dit politiquement, en fait.
C'est bon pour vous, ben voilà, ouais. Et puis ça fait un peu aussi de solidarité internationale.
Ouais, tout à fait.
Un peu d'internationalisme, c'est pas juste des beaux slogans dans les rues, c'est il faut aussi bordel, quoi. Il y a des gens qui ont pas forcément les moyens qu'on a, et que si au moins on peut servir à transmettre des messages, des paroles et des vécus, bon, au moins on servira à ça.
Et puis surtout, si on laisse des gens se faire emprisonner comme ça, on n'aura aucun. Enfin, il n'y a aucun rayonnement d'aucune idéologie, du coup. Mm-hmm. On les laisse pourrir en prison et les idées meurent avec eux, alors.
Non. Eh ben, on va écouter de la musique sur ces belles paroles.
Y a des oiseaux qui jaillissent, y a des oiseaux qui jaillissent, qui jaillissent. Y a des oiseaux qui jaillissent, des méandres de mon cul, curriculum vidé de sa substance rétroactive. Je n'ai aucune qualité pour qualifier ma vie active. De l'art bête et triste qui me pousse à taguer des sottises. Je procède au procès de ceux qui suivent le processus qui consiste à concéder au progrès du consensus. À la queue leu-leu, dans la matrice à bâtons, je mets des bâtons dans les roues motrices d'un avatar bidon. Bouffon, je le suis, je le dis en ces termes, car je m'autorise à rire de ce qui m'attriste dans cette vie terne. Pour ceux qui triment, j'aime voir à terme les vitrines maltraitées à la recherche du néant, car y'a Wallou sous les pavés. À se pavaner, l'avarice glisse, rue de la 5ème République s'imbrique des brides de brigands influents. Dictocratiquement menteur, fouteur de peur, de poisse, de pisse, de Panama Papers. Ouais, mœurs immondes, à trop au coin d'un feu, à coups de démonte pneus, au beau milieu de la ronde. Autant vomir son monde dans une grotte profonde, alors qu'au fond, hein, en fin de compte, 1-3-1-2, moins 49-3, c'est 819 raisons de les balancer du toit. 4 x 2, moins 1983, trahison fatidique à la mémoire d'un crachat. 1-3-1-2, moins 49-3. Ils trahissent depuis bien avant 83. 1-3-1-2, moins 49-3. Qui veut que les fils de fans on pose l'arme, hein. L'État nous baise et face on banne, on face à Strauss-Kahn. Super héros, patron, fais pas ton Brosnan. T'es pas mon boss, man, non, non. Tant mieux pour toi si tu peux t'offrir le balcon dans la cage du baron Haussmann. Haussmann, oreilles, j'ai séché comme une algue au soleil. Mon âme sommeille encore dans l'école communale. Au plus mal j'étais 7 ans, si mais là mon tonton ça s'arrange. Gare à toi quand tombera l'avalanche. En zupou dans les îles, il faut que les liens tiennent. S'insérer ici, c'est se serrer dans une file indienne. À la vue d'un béret, les 5 sont pris de frénésie, cet MC vient flairer les intérêts qui maintiennent encore la 5ème République. Les rubriques nous ont parlé d'un régime présidentiel unique en fin de règne qui n'imprègne plus l'imaginaire. Ceux qui dirigent détruisirent son héritage hier.
3, 2, 3, 3, 984, 9, 6, 7, 9, 53, raison, les balances, cet MC 1-3-1-2-49-3. Ils trahissent depuis bien avant 83. 1-3-1-2-49-3. Ils trahissent depuis bien avant 83. 1-3-1-2-49-3. Ils trahissent depuis bien avant 83. 1-3-1-2-49-3. Ils trahissent.
T'as bien entendu, c'était les Chevals Hongrois avec 7 MC et le titre c'était 49-3 qui est sur la dernière compile Poutre Apparente volume 4, t'as vu, avec les Chevals Hongrois et moult individus, je crois, ça s'appelle. Voilà. Et ben on est toujours dans la causerie, on approche de la fin, mais en tout cas pour l'instant c'est...
Et on peut pas les voir en live des fois.
Si, on les voit lundi en live à la Triperie à Lyon, mais je vous le rappellerai encore une fois dans les brefs. Alors, c'est à Jonathan de nous causer, alors pas BD, manga.
Manga.
Allez, qui va nous causer manga.
Et je vais parler d'une mangaka. Alors, c'est assez rare déjà, hein, des femmes dans ce milieu-là. Et d'une mangaka particulièrement visible au Japon, beaucoup moins en France, qui s'appelle Kyoko Okazaki. Donc c'est une femme qui est une auteure majeure au Japon, dont la plupart des récits sont centrés sur la sexualité et la façon de l'aborder à différents âges. Et voilà.
Ok, merci.
Donc c'était ça, voilà. Alors, non, elle a écrit énormément de choses, je peux pas vous faire la liste complète de tout ce qu'elle a fait, mais vous pouvez la voir sur un site qui s'appelle mangaupdates.com. Donc manga update comme mise à jour tout attaché. Et sur ce site, vous avez le lien vers tous les mangas. Bon, par contre, il est en anglais, mais bon, Google Trad pourra vous aider.
En même temps, les mangas au départ sont en japonais, donc ça,
voilà, on a déjà.
C'est pas non plus facile à lire.
Non. Et du coup, on s'aperçoit qu'elle a fait énormément de choses depuis 1985, où elle a fait son premier manga qui s'appelait Virgin, donc vierge. Ça posait déjà un petit peu, rien que le titre, les conditions de son écriture. Et puis, alors, je n'arrive pas à trouver en France, traduit en français, ce manga-là. En revanche, donc, elle a continué à faire de plus en plus. Donc, c'est un manga qui est clairement de l'ordre du shoujo, c'est-à-dire un manga pour jeunes filles, plus ou moins, et enfin pour filles du moins, et mais qui va parler de sexualité, et ça c'est tout nouveau au Japon, surtout en 85, et dans une société qui est très normée, très carrée, où les limites sont définies pour tout, et donc là on sort finalement d'un genre, de certaines limites qui étaient imposées jusque là.
C'est le détournement du genre, en fait. Ouais.
Complètement. Et d'ailleurs, ça se voit aussi dans son esthétique, parce que ses dessins sont du pur manga, c'est-à-dire que c'est fait à l'encre, avec des trames de fond, avec la position des cases, des bulles, la forme des bulles, le style d'écriture. C'est totalement manga, en termes techniques et esthétiques. En termes d'esthétique, justement, c'est là où ça diffère, et on a un dessin qui est très épuré, presque brouillon, qui rappelle davantage la bande dessinée. Et là aussi, il y a un détournement du genre. même si les règles sont respectées à fond, pour le coup. Donc c'est très intéressant, et c'est donc elle aborde des sujets qui sont parfois très durs. Et donc là, j'ai avec moi trois de ces mangas. Donc Non Amour, qui est un manga un petit peu fleur bleue, mais qui interroge sur la question du couple, donc d'un point de vue féminin, et la question du couple et de la question d'être seule. Comment finalement le couple est une institution qui fait que nous les femmes avons besoin d'un homme, voyons. Donc c'est un petit peu ce qu'elle dénonce là-dedans. C'est pas mon préféré de ce dont je vais vous parler, mais c'est quand même très bien fait. Un que j'aime beaucoup, c'est River's Edge aussi, qui parle d'un duo d'adolescents qui vont ça se présente un petit peu comme une chasse au trésor, et les adolescents vont trouver énormément de choses tout au long de la bande dessinée, à commencer par un cadavre. Donc c'est quand même un univers qui est très glauque, qui est assez noir.
C'est rare qu'on trouve un cadavre le matin comme ça.
C'est ça, c'est surtout à deux pas de chez soi, tiens, t'as pris ton café, un mort. Mais dans tous les cas, voilà, l'ambiance qui va être mise en place par Kyoko Okazaki dans ses mangas est toujours très... C'est assez glauque, c'est assez sombre, c'est une certaine légèreté, c'est très féminin. Encore une fois, c'est un manga destiné aux femmes. Et donc, River's Edge, il date de 93, et c'est un drama. C'est-à-dire que ça appartient aussi au genre du manga social, entre guillemets, ouais, qui explique un drame social. Donc là, il y a aussi le fait de se pencher sur la culture adolescente des années 90 au Japon, qui était quand même en plein développement pour ce qu'on a aujourd'hui, tout ce qui est autour du jeu vidéo et de tout un tas de symboles. Et donc, Non Amour, c'est aussi un de ces derniers, celui dont je vous ai parlé juste avant, qui a été publié en 2008. Parce que, entre-temps, elle a eu en 96 un accident de voiture, ce qui explique aussi qu'elle a été un petit peu oubliée, c'est qu'elle n'a pas pu travailler pendant quelques années. Et jusqu'en 2003, à vérifier. Quand même, mais apparemment, voilà, pendant 6 ans, elle n'a rien fait en termes de manga, parce que son accident de voiture lui a engagé des dommages importants. Enfin, je ne sais pas comment dire ça.
Donc, engendré plutôt qu'engagé.
Engendré, oui, plutôt qu'engagé. Engageons-nous dans des dommages particuliers. Et c'était avant ça, c'était quelqu'un qui donc, en plus de révolutionner le genre de bande dessinée qu'elle faisait, auquel elle adhérait, donc le shoujo, a énormément participé à tout ce qui est magazine subculture en anglais, ou underground, comme on aime bien dire. Et donc, elle a aussi introduit son style un petit peu par la force et par des voies détournées. Donc, elle y est vraiment allée comme une brute. C'est une féministe accomplie. C'est quelqu'un qui a un regard très, très poétique. Il y a un autre manga que je n'ai pas ce soir, mais qui s'appelle Pink, qui est magnifique, qui parle de la féminité. Et donc, déjà, rien que le nom, Rose en anglais, donc la couleur. Et du coup, l'association directe qu'on fait avec le genre féminin et tout ce qui va avec, au final, tout le
symbolique qui est derrière,
la symbolique qui est assez importante. Donc elle va quand même, avec beaucoup de poésie, aller explorer des sujets qui sont très durs, qui parlent particulièrement aux femmes, mais pas que. Et donc je conseille à tous les hommes de lire ces mangas aussi, parce qu'ils sont très bien. Et donc le dernier dont je vais vous parler, c'est un de mes préférés, c'est Helter Skelter. Ça parle de chirurgie esthétique, donc d'une jeune fille qui est mannequin et puis qui, pour conserver sa place, va sacrifier littéralement son corps, sa jeunesse, sa santé, puisque à force d'être opérée, et puis il y a un rapport monstrueux par rapport à ce qu'on disait en prépa, c'est plus un rapport horrible entre vraiment le poids, l'esthétique, la question du comportement alimentaire et l'esthétique, en fait, c'est ça. Mmh. Et donc, il y a cette question de l'anorexie et de la boulimie dans ce livre qui sont exposées de manière très gênante.
Très
voilà,
cru, enfin,
très cru, mais ouais. Même, alors voilà, c'est ce que j'aime bien aussi avec cette auteure-là, c'est que elle va vraiment faire en sorte que même si les choses paraissent très lisses, très légères, c'est toujours la partie qui gêne, qui est mise en avant. Je vais essayer de vous trouver mais n'importe lequel de ces passages sont assez intéressants, À un moment donné, elle est assistée par une personne, une amie à elle, et puis avant d'avoir une relation avec cette femme-là, elles ont un rapport un peu bizarre de domination et de soumission. Donc elle, c'est la mannequin, l'autre, c'est un petit peu son sous-fifre. Et du coup, on retrouve la mannequin quand même attachée à poil sur le lit avec un vibro enfoncé dans le vagin. Et qui a pas l'air de se plaindre tant que ça de la situation, même si c'est très gênant. Enfin, c'est quand même une image qui est particulière. Mais comme les lignes du dessin sont très très épurées, très fines, ça passe. De loin, c'est très lisse. En fait, c'est ça qui est génial. De loin, c'est très très lisse, c'est très propre, c'est très beau, c'est bien polissé. Et quand on y regarde de plus près, ça met vraiment en face de certaines choses. Et c'est un très beau travail que je conseille à tout le monde.
Il y a un vrai côté de détournement jusqu'au bout, c'est-à-dire que même le style est dans le style des dramas habituels du manga, par exemple, mais il y a des touches comme ça assez sombres ou assez glauques qu'on ne voit jamais d'ailleurs d'habitude dans le manga. Quoi. Enfin,
ah oui,
très rarement. Quoi. Enfin...
Même dans les mangas pour adultes, quand on aborde la sexualité, c'est toujours de manière très onirique,
ouais.
De manière très fantasmagorique. D'ailleurs, il y a tout un tas de monstres sexuels, presque un folklore sexuel.
Et ça, c'est lié au fait qu'au Japon, on n'a pas le droit de représenter les organes sexuels, même en les dessinant.
Ça commence à être toléré, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de flou sur les...
Ouais. Bah, l'exemple typique, c'est vous faites... je vais dire pardon aux oreilles chastes qui nous écouteraient, mais je suis sûr que vous ne nous écoutez pas, vous n'avez pas appelé au numéro.
C'est vrai.
Il y a, par exemple, si vous faites une sorte d'orgie avec un octopode à huit tentacules qui pénètre huit partenaires... Ça passe. Si vous faites la même chose avec des partenaires humains, ça passe pas.
C'est beaucoup plus compliqué à accepter moralement, oui.
D'accord.
Et en effet, le fait de mettre du réalisme dans la sexualité, c'est pas habituel.
D'accord.
Même si c'est du réalisme
cru.
Cru.
Et ben moi, ça me donne bien envie.
Bah,
entre la poésie, le côté un peu obscur, le côté, hein, j'aime bien. Tu peux peut-être rappeler les titres de tous ces ouvrages-là.
Ah oui, complètement. Alors, c'est Kyoko Okazaki, donc Helter Skelter, pour celui que je viens de vous décrire.
Ouais.
Celui d'avant, c'était River's Edge. Et le premier, c'était Non Amour. Et tout est publié chez Casterman dans leur collection Shaka Auteur. Donc, Saka, pardon. Saka Auteur, un peu comme un sac à hauteur, sauf que ça s'écrit S-A-K-K-A.
C'est ça.
Voilà.
Bon, on tâchera de façon de vous mettre tous les liens,
les références sur le
blog, etc. Comme ça, vous retrouverez tout.
Ah, et oui, petite chose intéressante. River's Edge, qui est spécifiquement un manga qui parle d'adolescence, est interdit, fait partie des Mature manga, et donc est interdit aux gens qui ont moins de 17 ans.
Ah oui.
Et j'ai trouvé ce paradoxe assez intéressant parce que finalement, je l'ai lu avant 17 ans, j'ai trouvé que ça me parlait beaucoup en tant qu'adolescente, je pense que ça... Et pourtant, c'est au Japon, il est classé dans cette catégorie-là et donc inaccessible pour les adolescents.
Ceux à qui il s'adresse.
Ah oui,
exactement.
Ça.
Donc c'est encore une preuve de finalement que même dans des sociétés qui rayonnent actuellement sur la scène politique et économique, il y a encore de gros pente d'arriérisme.
Ouais. Je crois que c'est assez partagé à travers le monde, en fait.
C'est ça. Je suis désolée, c'est comme la connerie, ça fait partie des choses les plus égalitairement réparties.
C'est ça.
Avant qu'on lance la musique, ouais, il te reste 10 minutes pour prouver que tu écoutes la causerie en appelant le...
04 78 39 18 15.
Rappelez, rassurez Fab, s'il vous plaît.
Allez, un petit effort. Bah non, il n'y a plus rien. On a coupé trop tôt.
Je suis désolée, j'étais persuadée qu'il y avait une suite secrète à ce morceau. C'est possible, mais c'est pas ce soir qu'on va le vérifier. Et c'était Helter Skelter des Beatles, tout comme le troisième manga que je vous ai présenté ce soir.
Dans la causerie.
Que j'allais pas me casser trop la tête, je mettrais le même nom aux deux, ça marcherait.
Ça a marché d'ailleurs, sauf la fin du morceau qui
était
un peu...
Sauf la fin.
D'accord. C'est bien, on recommencera ça.
Eh bien, on va se quitter avec, en parlant de quelques brèves, donner quelques rendez-vous militants ou musicaux, et on va recommencer, enfin, je vais recommencer en vous redonnant le rendez-vous que je vous ai déjà donné. C'est demain soir à la Triperie, à 19h, c'est le concert des Chevals Hongrois, mais ils ne seront pas tout seuls, mais voilà, ils y seront en tout cas, c'est de 19h à pas très tard, comme à lundi, qu'ils disent.
Voilà.
Voilà.
Et c'est où la Triperie ?
La Triperie, c'est sur les pentes de la Croix-Rouge. Je crois que c'est le 22 rue Humbert Colomès. C'est ça ?
Oui, Clara.
Oui, c'est ça.
Oui.
Ok.
C'est ça.
Ben voilà.
Clara, il faut aussi la voie des GPS tournée à droite.
Les adresses. C'est incroyable. Trop balèze.
C'est un bar associatif. Il faut bien le chercher.
Ouais, il faut bien le chercher.
Il n'y a rien sur la porte, hein, quasiment.
Ouais, c'est ça. Voilà. Mais arrêtez-vous devant le numéro 22, je crois, c'est celui-là. Et vous y serez, hein, c'est juste pas indiqué, mais vous y êtes.
Le mot de passe, c'est cheval.
C'est ça.
Ah, il faut rappeler qu'il y a 1 euro d'adhésion.
Oui.
Voilà, pour la Triperie, et qu'après, c'est à prix libre.
C'est ça. Voilà. Et ben, deuxième rendez-vous, c'est la manif.
C'est la manif. Oui, alors, mardi 5, alors j'avais envie de dire une manif qui se finit bien. Et oui, par la manif est à 17h30 contre la loi travail, voilà tout ça. Et après, un grand pique-nique festif sur la place Lyautey.
D'accord.
Et le départ, parce qu'il faut quand même savoir d'où on part, c'est de la place Guichard.
Là, okay.
C'est le métro B, place Guichard, voilà, Bourse du Travail.
Bourse du Travail.
Voilà, et donc c'est 17h30 parce que c'était une envie comme ça.
D'accord, ça change.
Mais je vous rappelle que l'intersyndicale vous invite à vous mettre en grève au moins l'après-midi dans vos boîtes pour venir ensuite à la manif et enfin manger des petits trucs sympas tous ensemble. Voilà.
Ok. On continue donc au jeudi 7 juillet. C'est ça, alors c'est un rendez-vous qui est donné place Mazagran à 18h. C'est pour remettre, alors vous me corrigez hein, Jonathan et Fab, parce que vous étiez avec quand on a ramassé cette info, c'est pour remettre un shot d'or à Gérard Collomb voilà. Pour sa place, parce qu'il a, attendez, si je me trompe pas, il a détruit un immeuble.
Oui, c'est ça.
Pour faire un parc avec 2 chiottes.
C'est ça, et ça a coûté, je crois,
2 millions d'euros.
2 millions d'euros.
Voilà.
Voilà.
Ça vaut bien un de poser son cul sur un shot doré, tout ça. Et donc voilà. Un Collomb.
Un colon, un chef d'or pour colon, ça devrait bien se passer.
Et c'est, il faut noter que c'était un immeuble qui était réhabilitable et que la mairie a déclassé pour faire une place. Voilà, on voit l'efficacité du truc, plutôt que de réhabiliter pour que des gens habitent dans l'immeuble.
Ouais, mais Gérard, je pense qu'il veut laisser sa marque.
Ah bah là, il a une bonne marque de chiottes.
Ça s'appelle une trace de frein.
Je sais pas la faire. Et dernier rendez-vous, ouais. C'est samedi 9 juillet. Pour la Pride ou la marche des fiertés LGBTIQ et tout ce que vous voudrez derrière, c'est le départ à 14h au lycée du Parc, comme toutes les années.
Si non, pas l'année dernière, c'est pour ça que ça a changé.
Ah.
L'année dernière, on avait fait un tour de pâté de maison, on avait fait Bellecour, Bellecour. Et
ah,
oui,
je me souviens
si,
pas.
Si, et cette année, on va faire un vrai parcours, ça change.
D'accord.
Voilà.
T'es pas très convaincu, hein. Moi non plus.
Mais si j'y étais, je me rappelle.
Mais moi aussi.
Mais si on est parti de Bellecour, on est revenu à
Bellecour.
D'accord,
ok.
On a fait le tour du premier arrondissement.
Bon, c'est pas grave, on va pas débattre ici de ça.
Ouais.
L'idée, c'est quand même, en tout cas, que nous y soyons les plus nombreuses et nombreux, parce que rien n'est gagné, que les trans doivent toujours avoir un parcours de dingue pour pouvoir.
Exister,
ouais, c'est
sereinement.
Ça. C'est ça. La PMA n'est toujours pas autorisée
pour toutes et tous. Bah pour toutes plutôt.
Oui, pardon.
Je vais me coucher.
On continue de se faire agresser quand on est lesbienne, homo, trans, bi, etc. Ouais. C'est pas parce que on a le droit de se marier que tout est acquis, hein.
Non, et loin de là. Et puis on va rappeler aussi Orlando. Sans faire dans le larmoyant, mais voilà, il y a un attentat dirigé exclusivement contre la communauté LGBTIQ. On va rappeler la Turquie, où on interdit aux LGBT de faire des prides,
et
où on les gaze et
la
trans pride, et où on les gaze et on les tabasse. On va rappeler la Russie, où on interdit carrément aux homos de dire qu'ils sont homos, ce qui est encore pire. Et puis on va rappeler qu'il y a encore 12 pays dans le monde qui pénalisent l'homosexualité et que dans 11 d'entre eux, c'est passible de la peine de mort. Et c'est quand même beaucoup.
C'est ça.
Voilà. Il reste tout ça à abattre encore et encore. Voilà pourquoi on marche.
C'est ça.
Même si on met de la techno. Parfois.
C'est ça.
C'est pas grave, on marche bien comme ça.
Hein. Ben, ouais, ouais, en fait. Voilà.
Et ben voilà pour tous les rendez-vous. Et bien, on se dit, je crois, la semaine prochaine.
Ah bah c'est même sûr. Enfin hein? Moi oui, en tout cas, vous faites ce que vous voulez.
Bah écoute, on devrait être là. Enfin, je devrais être là. J'en ai plusieurs dans ma tête pour ça, le on, enfin tout ça. Excusez-moi. Faut qu'on se calme. Eh ben, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. On va se quitter avec
un nouveau titre de cet immense artiste qui fait de la très très bonne musique et qui s'appelle Didier Super. Et Didier Super nous a fait un titre qui résume bien ce qui se passe en ce moment, notamment avec l'euro. Et le titre s'appelle Manipulez-nous mieux.
C'est ça.
Voilà.
Et je voulais juste dire aussi que Didier Super est en concert sur Lyon, je crois, au mois d'octobre.
Ouais.
Regardez-y, ça.
L'espace Gerson.
Merci bien.
Plusieurs soirs dans la même semaine.
C'est à voir. Si vous n'avez jamais vu Didier Super sur scène, c'est quelque chose, vraiment. C'est une expression artistique particulière.
Ouais.
Voilà, on se fait des bisous, on vous souhaite la bonne nuit.
Et on se lève tous pour danser sur ce super titre.
Ouais. Allez, on y va. Au revoir les gens.
Des bisous. Au revoir.
Alors ça c'est ma chanson que j'ai écrite pour faire trembler tous les gouvernements du monde. On est perdu, on croit plus rien, même les vieux ils ont capté qu'en fait notre président c'est pas lui qui dirige vraiment, que nos vrais chefs c'est des banquiers qui ont réussi mieux que lui, et c'est pour ça, droite ou gauche, eh ben non ça reste à droite, tout le monde sait qu'on gagne les élections comme on vend des yaourts, simplement en passant à la télé tous les jours, mais ma mère elle a capté que la crise n'existe pas. C'est l'invention de certains gros riches pour vendre nos usines aux Chinois. Tout le monde a compris que les infos, ça sert juste à nous faire peur en nous montrant la merde des autres pour qu'on se contente de la nôtre. Alors vous, les beaux costards qui décidez de notre sort, ne nous laissez pas comme ça, ça fait trop peur, faites un effort. Manipulez-nous mieux. Nos usines, mais putain, faites-nous rêver, faites-nous croire que vous nous aimez. Manipulez-nous mieux, servez-vous dans nos frigos, nos impôts c'est déjà cadeau, mais faites-nous croire qu'il y a des martiens, ça fera moins peur que croire en rien. Même les gamins dans les écoles demandent qu'à croire cette histoire, que si au pays des barbus y'en a qui nous veulent pas du bien, c'est juste à cause d'une religion, et donc ça n'a aucun lien avec les militaires qu'on leur envoie régulièrement pour leur bien. Manipulez-nous mieux, allez juste un petit effort, on vous demande pas grand chose, vous savez aussi bien que nous qu'on n'a pas inventé l'eau chaude. La plupart d'entre nous, on aime bien se contenter de peu. On cherche pas trop à réussir et encore moins à diriger. On n'a pas très envie de passer à la télé et encore moins envie d'être reconnu dans la rue. La plupart d'entre nous, on saurait pas quoi foutre d'un idiote. On voit pas l'intérêt d'accumuler autant de milliards. On n'a pas l'intention de laisser notre nom dans l'histoire. Et c'est peut-être ça qui prouve que par rapport à vous, en fait, si ça se trouve, eh ben, c'est nous qu'on est évolués.